Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, nos amis les bêtes, même quand elles rampent, on les aime, enfin pas toujours. Réchauffement climatique oblige, des espèces animales migrent vers le nord de l'Europe notamment, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle quand elles véhiculent des maladies comme le moustique tigre ou encore la chenille processionnaire et ses poils urticants. Ce ravageur forestier gagne du terrain et il envahit désormais les Pays-Bas. Pour de nombreux Néerlandais, la chenille processionnaire, c'est synonyme de démangeaison, de brûlure, un véritable cauchemar, Antoine Moutou.
Attention, chenille processionnaire. Voici ce qu'on peut lire depuis plusieurs semaines sur des banderoles accrochées à de très nombreux arbres un peu partout dans le pays. Les autorités néerlandaises mettent ainsi en garde passants et riverains. Les poils de ces chenilles peuvent être particulièrement urticants. Alors mieux vaut les éviter à tout prix. Ici, la situation est prise très au sérieux. L'Association des médecins néerlandais tire la sonnette d'alarme. Début juillet, elle enregistrait une moyenne de 80 patients sur 100 000 habitants atteints de démangeaisons, brûlures ou autres problèmes liés au contact avec l'animal, contre environ 25 sur 100 000 habitants seulement d'habitude dans cette période de l'année. Parfois, ça peut aller très loin, comme le cas de Nicole Schreifer, abondamment relayé dans les médias. Il y a 3 ans, cet habitant d'Engelo, dans l'Est, a presque complètement perdu l'usage de l'un de ses yeux à cause d'un simple poil de chenille. Selon une récente étude de l'université de Wageningen, on comptait cette année 3 fois plus de chenilles processionnaires qu'en 2018. Selon les chercheurs de l'université, cette explosion est en partie due au changement climatique, mais aussi à la plantation ces dernières décennies de très nombreux chênes au bord des routes et la tonte systématique des prairies et espaces où se trouvaient des plantes et fleurs sauvages, ce qui a fait disparaître les prédateurs, insectes et oiseaux. Les autorités locales ont beaucoup de mal à venir à bout de ces chenilles et parfois c'est un véritable casse-tête, comme à Eindhoven. Elles se sont rendues compte qu'en épandant des produits chimiques pour les tuer, elles anéantissaient aussi des espèces de papillons protégés.
Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux, vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Oh, oupidou.
Il y a aussi les animaux qu'on cherche à protéger à tout prix, menacés d'extinction. C'est le cas des grands primates et tout particulièrement de l'orang-outan dont le territoire se réduit à peau de chagrin à Bornéo. En Europe, des zoos de conservation organisent les naissances en captivité pour conserver une meilleure diversité génétique. 344 orang-outans peuplent les ménageries sur le continent. Nénette est l'une des fondatrices de la population européenne. À 50 ans, âge vénérable, c'est la star de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Laurence Théo a assisté à sa fête d'anniversaire.
Nénette en particulier vient se mettre en face de la personne et là, elle vous regarde dans les yeux. Et quand vous regardez un orang-outan dans les yeux, ça vous met en abîme et ça crée énormément d'émotions.
Coupe de Beatles avec frange rousse ramenée sur le front, Nénette promène son regard flegmatique sur tout ce qui se passe autour d'elle. Parfois, elle lève les yeux au ciel, soupire, se gratte sous l'aisselle. Pour sa fête d'anniversaire, la mamie orang-outan savoure un fraisier, gâteau spécialement confectionné pour elle. Quinquagénaire, Nénette demande une attention toute particulière et pour ne pas perturber les orang-outans pendant les soins, un entraînement a été mis en place. Christelle Anneau, chef soigneuse.
Depuis une quinzaine d'années maintenant, on a mis en place de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on a appris à nos orang-outans à définir certaines parties de leur corps et à nous les présenter à la grille. Nous montrer les mains, les bras, les genoux, les pieds, les talons, le ventre. Et Nénette, comme en plus là, elle est âgée, on peut aussi vérifier son cœur. C'est ce qu'on a fait en début d'année. Donc elle se met sur la grille, les mains directement sur la grille, elle approche la poitrine et ensuite on passe la sonde à écho. Et voilà, il a fallu les entraîner à accepter la sonde. On a fait une fausse sonde en bois, le gel, ça a été terrible. Donc on a dû, nous, se badigeonner de gel sur le ventre, etc. et leur montrer que ça faisait rien. Et donc par mimétisme, ils ont reproduit. Et aujourd'hui, on a un vrai diagnostic de son cœur et son cœur va très bien.
Les grands singes sont très intelligents et ingénieux. Haute-Bourgeois vétérinaire.
C'est-à-dire qu'ils vont être capables de résoudre des problèmes importants. Ils vont être capables d'utiliser des outils, de fabriquer des outils. Ils peuvent parler du passé et ils peuvent aussi prendre un outil, le confectionner et l'utiliser que plusieurs heures plus tard. Ça veut dire qu'ils se projettent dans le futur.
Nanette, son truc, c'est le bricolage. Christelle Anneau, chef soigneuse.
On a une consigne maintenant avec les soigneurs lorsqu'on bricole dans les loges des orang-outans, c'est on compte nos outils quand on rentre, mais on compte nos outils surtout quand on ressort. Parce qu'il y a eu malheureusement une fois une clé à molette d'oublier dans la loge de Nanette, et quand on arrivait le lendemain, elle avait commencé à dévisser tous les boulons. C'était pas de la rigolade quand même à ce moment-là, j'avoue. Donc elle est parfaitement capable effectivement de bricoler.
Afin qu'ils ne perdent pas leur instinct, les soigneurs ont imaginé un distributeur en forme de labyrinthe où les singes doivent résoudre des problèmes pour récupérer des fruits. Une ingéniosité qui va bien au-delà du simple mimétisme.
On a eu une femelle orang-outan, ici Vatana. Elle faisait 19 sortes de nœuds différents avec n'importe quelle matière. Quand on lui distribuait des t-shirts, elle en faisait vraiment des lamelles et elle nouait ensemble et elle se faisait une corde après qu'elle pendouillait un peu partout, etc. Donc voilà, il y a une vraie recherche.
La ménagerie du Jardin des Plantes participe au programme d'élevage européen des orang-outans, dans lequel Nanette est répertoriée comme fondatrice, car elle est née dans la nature, donc porteuse de diversité génétique. Michel Saint-Jalme, directeur.
Le but de ces programmes, c'est de faire en sorte de préserver les capacités adaptatives des animaux sauvages en évitant la consanguinité et en évitant toute sélection qui rendrait ces animaux plus ou moins domestiques, en ayant perdu une partie de leur variabilité génétique et qui fait que ces animaux ne pourront jamais être réintroduits dans le milieu naturel.
Les orang-outans de la ménagerie du Jardin des Plantes sont les ambassadeurs des grands singes dans le milieu naturel.
La plus grande mission de la ménagerie, comme de beaucoup de parcs zoologiques en Europe, c'est de sensibiliser nos visiteurs aux problématiques environnementales et de leur montrer, là vous avez des orang-outans, vous voyez tout ce qu'ils sont capables de faire, vous voyez Nanette est peinte, elle est très très proche de nous, regardez-la bien, vous allez quelque part vous voir dans un miroir, et donc ces animaux, il faut éviter absolument qu'ils s'éteignent, et donc il faut tout faire, il faut avoir des comportements responsables pour essayer de préserver la nature et faire en sorte que ces animaux soient toujours visibles dans leur milieu naturel.
Nanette fait partie des plus vieux orang-outans connus de Bornéo, une espèce qui pourrait disparaître d'ici 2050. Aujourd'hui, les zoos s'organisent pour préserver ces grands singes afin de les réintroduire un jour peut-être dans le milieu naturel.
Où que tu ailles, si tu quittes la jungle, elle ne quitte jamais.
Autre façon de défendre les espèces sauvages, c'est d'interdire ours cyclistes, éléphants acrobates, tigres cascadeurs ou encore singes déguisés en clowns. 40 pays dans le monde, dont 22 européens, ont interdit les cirques qui utilisent des animaux sauvages. En Angleterre, les cirques ambulants ne pourront plus les faire travailler à partir de janvier prochain, Marie Billon.
Anne était le dernier éléphant de cirque en Angleterre et elle a tiré sa révérence il y a plus de 10 ans déjà. Aujourd'hui, il n'y a plus que deux cirques qui se partagent 19 animaux, des zèbres, des rennes, des ratons laveurs, des chameaux, un renard, un perroquet macao et un zébu. Il y a quelques mois, un dompteur de Lyon a demandé une licence que le gouvernement lui a refusée. Une première victoire pour l'association de défense des animaux RSCPA, qui fait campagne pour l'interdiction de l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques itinérants. La principale raison de cette opposition, selon Rose Club, scientifique à la RSCPA, est la condition de détention de ces bêtes.
On sait que le transport est stressant pour les animaux. Ils sont enfermés dans des cages trop petites et donc ils ne peuvent s'adonner à aucune de leurs activités naturelles. On leur impose aussi le contact avec des animaux qu'ils ne fréquenteraient pas dans la nature. On a pu mettre les lions et les tigres ensemble, par exemple. Ou alors on isole des animaux qui vivent en meute. Tout cela crée des comportements qui ne sont pas naturels, comme tourner en rond dans une cage.
C'est au nom du bien-être animal que le gouvernement a donc décidé de mettre fin à la législation actuelle le 19 janvier prochain. Certains dompteurs jugent cette décision liberticide. Les animaux de cirque ne sont plus des animaux sauvages. La plupart sont nés en captivité, disent-ils. Sauf que ça ne change pas leur instinct, répondent les associations. L'opinion publique, elle, semble se satisfaire de cette interdiction. Selon la RSCPA, 94% de la population et contre l'utilisation de lions, tigres et éléphants dans les cirques. Au Pays de Galles, le gouvernement a lancé une consultation qui a reçu 6500 réponses en faveur de l'interdiction, un taux de participation très honorable pour ce genre d'étude d'opinion. Les 19 animaux qui travaillent encore dans les cirques itinérants anglais seront donc mis à la retraite de fait en janvier. Ross Club.
La loi stipule que les cirques ne peuvent plus transporter, exposer ou obliger leurs animaux sauvages à faire une performance. Malheureusement, ils peuvent les garder. Mais nous sommes au moins contents qu'il n'y ait plus d'incitation économique à prendre d'autres animaux. Il y a quelques années, par exemple, la RSCPA a aidé à trouver une nouvelle maison au dernier éléphant de cirque.
Les cirques essaient donc de se reconvertir. Certains tablent sur des numéros de voltige extrême, d'autres sur l'humour. Selon une étude de la compagnie Statista, depuis 10 ans, seuls 4 à 5% de la population est allée voir un spectacle de cirque.
Il y a des animaux qui continuent de travailler auprès des hommes. C'est le cas des chevaux, dans la police montée par exemple. En Autriche, c'était un projet porté par le ministre de l'Intérieur Herbert Kickl, du FPÖ d'extrême droite. Seulement voilà, fin mai, son gouvernement a été renversé. Pas sûr du coup que la police autrichienne se dote d'une cavalerie, Céline Béal.
Les photos d'Herbert Kickl lors d'une visite début 2018 aux écuries de la police montée bavaroise ont marqué les esprits. Le ministre avait pu lui-même faire un tour dans le paddock. Juché sur son destrier, on n'avait jamais vu le très austère stratège du FPE arborer un sourire aussi extatique. Près d'un an et demi plus tard, on imagine Herbert Kickl plus renfrogné. Non seulement il a dû quitter le gouvernement en mai, mais en plus, la toute nouvelle unité de police montée autrichienne, si chère à son cœur et qu'il avait installée à Vienne avant sa démission, est mise en question. En réalité, ce projet avait suscité des critiques dès le départ. Cette nouvelle police montée est-elle vraiment nécessaire? Certes, les chevaux seraient particulièrement efficaces pour patrouiller dans les zones boisées du parc du Prater ou sur la grande île du Danube. Mais en revanche, leur utilisation pour le contrôle des foules, comme en Angleterre aux alentours des stades, est très controversée. D'abord parce que des accidents peuvent arriver. Ensuite, parce que la capitale autrichienne n'est que très rarement le théâtre de manifestations monstres. Enfin, les défenseurs du bien-être animal expliquent qu'utiliser des chevaux dans un tel cadre va à l'encontre de tous les instincts des équidés. Reste un avantage indiscuté, les chevaux devraient augmenter le prestige de la police. Mais après le remaniement ministériel et le départ d'Herbert Kickl, l'avenir de l'escouade est maintenant en suspens. La formation des cavaliers et de leurs montures est déjà achevée, pourtant leur déploiement a été reporté à plusieurs reprises. Se fera-t-il en août prochain ? Alors que le journal Courir a récemment affirmé que ce corps de 11 policiers a déjà coûté 2,5 millions d'euros aux contribuables, soit bien plus que ce qui était prévu, le ministère de l'Intérieur, actuellement dirigé par un ministre d'intérim, se montre avare de commentaires. Une évaluation serait en cours, il se pourrait bien, au final, que la cavalerie n'arrive jamais.
C'est l'été et on parle de qualité de l'eau qui s'améliore tout doucement en Europe. Et c'est tant mieux car avec la canicule, les baigneurs se sont précipités sur les zones de baignade, lac, rivière et mer bien sûr. Malgré tout, la pollution présente toujours un risque de danger majeur. Qu'en est-il en Belgique? Le Royaume respecte-t-il les normes européennes? Alice de Batty, Arnaud Vernier ont mené l'enquête direction les lacs de l'Oder.
Sur la berge de la zone de baignade du lac de la Plate-Taille, une quinzaine de vacanciers profitent des températures estivales. 5 amis lézardent au soleil, et si elles comptent bien un moment mettre le pied dans l'eau, elles n'ont pas du tout pensé à sa qualité.
J'ai pensé, je vais passer un bon moment avec mes amis, et est-ce qu'il fera beau, voilà.
Je trouve qu'elle est assez transparente, donc j'étais plutôt surprise dans le bon sens.
Cette baigneuse semble rassurée, mais la clarté de l'eau ne signifie pas pour autant que l'eau est sans danger. En Wallonie, c'est l'Institut scientifique du service public qui surveille la qualité des eaux de baignade. Il contrôle 33 sites toutes les semaines. Cyril Charles en est à son quatrième prélèvement de la journée.
Je commence par me désinfecter les mains pour le prélèvement bactériologique. Et voilà, je rentre dans l'eau, dans la zone de baignade, jusqu'à avoir une hauteur d'eau de plus ou moins 1 mètre. Et là, je fais mon prélèvement à 30 cm de la surface.
De retour sur la terre ferme, Cyril collecte aussi d'autres données.
Je compte le nombre de personnes qui se baignent. Je regarde aussi les personnes en berge. Je regarde s'il y a des déchets flottants. des traces d'hydrocarbures et également s'il y a des excréments en bordure.
Des paramètres qui pourraient expliquer une potentielle pollution de l'eau et le développement trop important de deux bactéries en particulier, l'Escherichia coli et l'entérocoque. Elles font l'objet de toutes les attentions au laboratoire de l'ICEP à Liège. Et c'est dans le service de Nadine Bourlion qu'on analyse les prélèvements.
L'analyse des Escherichia coli et des entérocoques se fait par inoculation de microplaques. Donc c'est une culture en milieu liquide. Et nous aurons les résultats dans 48 heures.
L'eau doit répondre à des normes de qualité qui sont imposées par l'Union européenne.
Les normes varient en fonction du germe, mais pour qu'une eau soit conforme, même de qualité minimale, il ne peut pas y avoir plus de 1000 Escherichia coli et 400 entérocoques.
Quelle maladie risque-t-on d'attraper si on contracte l'une de ces deux bactéries ?
En fait, ce ne sont pas des bactéries pathogènes en elles-mêmes, ce sont simplement des indicateurs de pollution fécale. Quand il y a beaucoup de germes d'origine fécale, cela signifie qu'il y a un risque qu'elles soient accompagnées d'entérovirus, qui eux sont beaucoup plus dangereux, notamment les entérovirus de type hépatite ou même la polio.
Ces bactéries peuvent aussi provoquer des troubles intestinaux. Si les échantillons déposés aujourd'hui dépassent les normes européennes, les panneaux à l'entrée de la zone de baignade passeront du bleu au rouge. Mais rassurez-vous, selon le dernier rapport de la Commission européenne, la grande majorité des eaux de baignade en Belgique sont d'excellente qualité.
C'est pour la première fois dans l'histoire du Parlement européen que, à la tête d'un groupe politique, un des groupes importants, qui sans doute va faire partie de la majorité politique au Parlement, vient de l'Est.
Sa troisième place l'amène à jouer un rôle de pivot au sein du Parlement européen. Le groupe Renaissance, Renew en anglais, rassemble notamment les élus macronistes. Il siège d'ailleurs en ce moment au Parlement de Strasbourg, où se déroule le vote du président de la Commission européenne. Et c'est un francophone francophile, que vous entendez d'ailleurs, Dacian Ciolos, qui a pris la tête de la formation. Béatrice Leveillé nous brosse le portrait de cet ancien commissaire européen et ex-premier ministre roumain.
Dacian Cioloș, 49 ans, a fait ses études d'agronomie en France. Eurodéputé, puis commissaire européen à l'agriculture en 2010, il a ensuite dirigé le gouvernement en Roumanie dans le cadre de la lutte anticorruption. Pour Catherine Durandin, historienne, spécialiste de la Roumanie, professeure émérite à l'INELCO, il est non seulement franco-compatible, mais également Macron-compatible.
Je représente la nouvelle génération. Ça, c'est quelqu'un qui a été formé intellectuellement après 89, après la chute du régime communiste. Il a été formé à l'étranger, en France en l'occurrence, dans le domaine de l'agronomie. Il a déjà une expérience européenne, ensuite il a été Premier ministre, et c'est quelqu'un qui a lancé un parti politique nouveau qui se veut avant tout pragmatique, technocrate, en refusant la notion d'idéologie. On l'appelle maintenant là-bas le Macron roumain.
Dacian Cioloș succède à l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, qui présidait l'Alliance des démocrates et libéraux en Europe. Sous l'impulsion des eurodéputés macronistes, son nom est désormais Renew Europe, qui peut se traduire par renouveler l'Europe. Et Dacian Cioloș a promis que Renew Europe jouera un rôle central au Parlement européen, avec une étiquette macroniste qu'il ne renie pas. Trajan Sandu, historien, professeur à la Sorbonne Nouvelle.
Il est non seulement assez néolibéral, mais il est assez conservateur sur le plan social, puisqu'il s'est prononcé à l'époque où il était Premier ministre contre le mariage homosexuel, avec des arguments tout à fait traditionnalistes, ce qui le distingue fortement au sein de sa nouvelle famille libérale, qu'il n'a rejoint finalement que à la fin 2018, donc avant les élections européennes.
Dacian Cioloș va présider le troisième groupe au Parlement avec 106 députés sur 751. Mais il s'agit surtout du premier grand groupe présidé par un représentant d'un nouvel État membre, Catherine Durandin.
Dans la mesure où on est encore en Roumanie, dans un combat entre, disons, les anciennes nomenclatures ou les nouvelles nomenclatures qui ont fait fortune de façon parfois anarchique, incohérente et corrompue après 1989, ils représentent une volonté de lutte contre la grande corruption et contre les habitudes de corruption, il présente un véritable espoir de changement.
Proche de Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Dacian Cioloș, ancien commissaire européen à l'agriculture, est en tout cas bien armé pour la nouvelle mandature.
Merci de nous avoir suivis à la réalisation et à la mise en onde de Françoise Grelot. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur la page de RFI.fr et sur Facebook.